Regards croisés, avec Chloé Dabert, metteuse en scène, et Floriane Toussaint, enseignante-chercheuse. Une création sonore enregistrée en décembre 2023 à la Comédie Centre Dramatique National de Reims, en lien avec le spectacle Rapt, mise en scène par Chloé Dabert. Une production RJR Radio Jeune Reims.
L'enjeu de ce dialogue pour nous, c'est de ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, d'autant que dans ce spectacle, comme dans un précédent spectacle de Chloé, Girls and Boys, le plaisir repose en grande partie sur une révélation centrale, une surprise qui reconfigure vraiment l'appréhension qu'on a du spectacle. Donc on ne va pas vous spoiler, vous divulgâcher cette surprise, on va plutôt dialoguer ensemble et se dire des choses qui peut-être vous reviendront en tête pendant le spectacle ou après. On espère que ça résonnera dans tous les cas. Et donc, si tu es d'accord, Chloé, j'aimerais qu'on discute de ton geste de mise en scène. En tant que critique qui passe pas mal de soirées au théâtre depuis plusieurs années maintenant, qui suit attentivement la création théâtrale contemporaine, il me semble que la singularité de ta démarche, ça peut paraître paradoxal, c'est que tu montes des textes de théâtre. Tu ne pratiques pas l'adaptation, tu ne pratiques pas le montage, tu n'écris pas toi-même, sauf erreur de ma part. Tu n'encourages pas tes acteurs et actrices à l'improvisation ou à la performance, autant de formes auxquelles on peut assister beaucoup dans la création contemporaine. Toi, tu mets en scène des textes de théâtre. Et pour l'essentiel, des textes de théâtre contemporains, tu as mis en scène plusieurs textes de Denise Kelly, un texte de Lola Lafont, un texte de Lucie Kirkwood, un texte de Lucie Bois d'Amour. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les découvres, comment tu les choisis ?
J'en ai aucune idée. Je sais, enfin, j'ai pas de méthode. C'est d'ailleurs très très compliqué. C'est tout empirique. C'est surtout l'écriture, parce que j'ai, pour rectifier, quand même adapté le roman de Lola, La petite communiste qui ne sourit jamais, qui n'est pas un texte théâtral, ou Le mur invisible aussi avec elle, qui ne sont pas des textes, mais qui, en fait, en tout cas, l'écriture de Lola, par exemple, que j'ai adaptée, c'est une écriture, pour moi, en tout cas, quand je la lis, je trouve que c'est une écriture très rythmique, qui est vraiment, qui marche très bien à l'oral. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quand on l'a dit, un rythme un peu, qui est évident. Je pense que ce qui est sûr, c'est que je vais choisir des textes qui ont une écriture très structurée, très contraignante, précis. Alors, ça peut être sur la ponctuation, la garce, par exemple, qui est vraiment le top de la structure. Ou Racine en alexandrin, ou les textes anglais que je montre beaucoup, qui sont vraiment très écrits, rythmiques, en fait. Je dirais que c'est pas tellement la musique, c'est plutôt le rythme qui m'intéresse, le rythme de la langue. Donc ça, c'est ma première contrainte, parce que je saurais pas monter un texte qui n'est pas, je vais pas dire, après c'est un jugement, mais qui, selon moi, enfin, en tout cas pour moi, ne serait pas suffisamment bien écrit. J'ai vraiment besoin de m'appuyer sur une partition. J'ai fait de la musique, je suis très forte en maths, et donc j'allie les deux, et ça donne un truc un peu très technique, en fait. Voilà, j'ai besoin de faire rentrer les acteurs dans le texte d'une manière très technique pour que les acteurs ne jouent pas tous les textes de la même façon. Pour moi, une écriture a un rythme et une respiration qui n'est pas la même qu'une autre. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est déplacer. Je travaille beaucoup avec les mêmes personnes, avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices. Mais l'idée, c'est qu'ils ne fassent pas toujours ce qu'ils savent faire, ou qu'ils fassent toujours la même chose, ou qu'ils se mettent en avant. Je leur demande vraiment de mettre le texte devant et de faire entendre, en fait, le rythme de l'écriture. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, ce que ça raconte, après ça, c'est très intime. Après, intime et politique en même temps, parce que c'est lié, quoi. Mais je pense il faut que l'histoire me touche, ou en tout cas que je me sente concernée, ou que ce soit une question que je me pose, ou que ça éveille en moi des questionnements, puisque je choisis aussi des textes qui je pense, n'ont jamais de message clair. J'aime bien que ce soit des textes qui provoquent le débat, qui questionnent, qui me questionnent. Et avec l'équipe de création, on discute beaucoup. Ça nous envoie celui-là particulièrement dans des affres et des questionnements et des trucs vraiment où on se perd dedans. L'idée, c'est de me dire, voilà, l'autrice, l'auteur a voulu écrire ce texte pour dire quelque chose, pour poser des questions. Loin de moi l'idée de me servir du texte pour lui faire dire autre chose. Donc j'aime bien que ce soit des textes qui n'aient pas un message clair, qui laissent ouvert, qui laissent la place à l'équipe qui travaille dessus de réfléchir et qui vont provoquer une réflexion chez le spectateur, en tout cas, ou un débat, ou un questionnement, ou des doutes. J'ai l'impression que du coup, j'aime bien les textes qui rendent le spectateur actif aussi. Donc les sujets... Et après, c'est des thèmes quand même, j'ai fait un pas de côté avec Racine, qui sont quand même, je pense, des thèmes de, je ne sais pas si c'est société, ce serait le terme, mais en tout cas, qui, pour moi, parle de la société contemporaine, le monde dans lequel on vit, les sociétés occidentales, en tout cas, je trouve que les écritures anglo-saxonnes, même si ce n'est pas tout à fait la même culture que la France, on est tellement baigné dans cette culture-là qu'on se l'approprie facilement. Donc voilà, des questions de société, puis des thèmes divers et variés, avec des petites obsessions certainement inconscientes.
Qui se voit pas trop, parce que comme tu le dis, il y a beaucoup de thèmes assez divers qui sont abordés dans tes spectacles. Il y a les relations familiales ou conjugales, dans un cadre domestique, dans le cadre d'une tragédie. Ton dernier spectacle, Fière Maman, c'était un tribunal de femmes au XVIIIe siècle qui soulevait beaucoup de questions féministes en écho avec notre époque. Là, le spectacle Rapt porte sur la question des médias, leur pouvoir sur notre perception du réel. Donc, on n'identifie pas encore d'obsession très nette chez toi, mais là, tu as dit énormément de choses sur lesquelles je voudrais revenir parce que tu les dis de manière assez évidente, alors que pour moi, elles ne le sont pas. Une des questions, à mon avis, que posent les écritures théâtrales contemporaines sont celles de la contrainte. Et je pense que si une bonne partie des écritures théâtrales contemporaines ne sont pas montées, c'est qu'elles sont extrêmement contraignantes pour les metteurs en scène, qu'elle leur laisse très peu de marge de manœuvre. Et toi, tu acceptes complètement cette contrainte. Tu t'en sers vraiment comme un levier. Et il me semble t'avoir déjà entendu dire que c'est avec le firmament et la contrainte énorme de ce texte écrit comme un scénario que tu es venu à la mise en scène au sens le plus large, avec une immense scénographie, une distribution monumentale, alors que tes formes étaient plus petites avant. Et ça, je trouve que c'est assez original dans ta manière de faire, parce que tu as une posture très humble de metteuse en scène qui te met entièrement au service du texte, alors que d'autres, sans doute, se servent de texte pour montrer la virtuosité de leur art. Et tu n'es pas du tout dans cette démarche-là, et pas du tout dans une démarche autoritaire ou même d'autrice, où tu dis que non seulement tu te mets au service du texte, mais en plus tu mets les acteurs et les actrices au service du texte. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me paraît... important de relever, parce que par rapport à d'autres metteurs en scène qui montent des textes, et qui montent des textes de théâtre classique par exemple, je pense à Stéphane Braunschweig, il y a quand même une démarche de lecture du texte, d'imprimer une marque au texte, d'en proposer une réinterprétation. En ce moment, il propose une Andromaque extrêmement troublante, très bouleversante, puisqu'il la relie à l'aune de notre époque et ça reparamètre beaucoup de choses. Et toi, tu acceptes de ne pas faire ce travail-là d'interprétation. C'est-à-dire que ton interprétation, elle est exclusivement scénique, et c'est très important. Tu n'es pas forcément dans une démarche de dramaturgie. Là, c'est la dramaturge qui te parle. Donc, je pratique la dramaturgie auprès de plusieurs metteuses en scène, notamment Laura Mariani, au sens allemand, donc pas dramatiqueur, celui qui écrit les pièces de théâtre, mais le dramaturge, celui qui conseille. Toi, tu ne travailles pas avec un dramaturge qui réfléchirait à l'opération d'adaptation du texte à notre époque. Ton Iphigénie était l'Iphigénie de Racine. Tu n'essayais pas de nous dire quelque chose avec ce texte, et ça a beaucoup, beaucoup troublé la critique avignonnaise. Enfin, qu'est-ce que tu nous dirais sur cette question de la dramaturgie ? Comment tu as l'impression d'en faire ou pas ?
J'ai l'impression que le fait de monter un texte... C'est vrai que j'ai un très grand respect des auteurs et des autrices, soit morts ou vivants. ça ne change rien. Évidemment, quand ils sont vivants, on peut leur poser des questions quand on a des doutes. Et quand ils sont morts, bah, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, une part d'interprétation. Mais j'essaye de lutter contre ça. C'est vrai que j'essaye de lutter contre ça, contre le fait de faire dire au texte quelque chose qu'il ne dirait pas. Après, certainement, je pense au Lagarce, par exemple, que j'ai monté... il y avait certainement une lecture, en tout cas, comme je cherche à entendre, je travaille beaucoup à l'oreille, donc pour moi, il faut que ce que j'entende soit juste. Si c'est juste, si l'acteur, et puis je travaille beaucoup avec les actrices, les acteurs et les collaborateurs. C'est vrai que si quelqu'un me dit « non, là, c'est bizarre, j'arrive pas », je me dis « bon, bah, je vais pas le forcer à faire ça », c'est qu'il y a un problème. Donc, j'aime bien m'entourer de personnes qui vont s'impliquer aussi dans les projets. Donc, la dramaturgie, je pense qu'elle est, quand même très présente parce qu'on travaille quand même beaucoup à la table, on se pose beaucoup de questions. Certainement, c'est impossible que... Ça doit être impossible de... Comment dire à un moment qu'il n'y ait pas une part d'interprétation, de subjectivité de ma part, c'est sûr. C'est impossible. Enfin, oui. Voilà. Mais j'essaye, j'essaye de lutter contre... de savoir ce que le texte a à me dire, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est que si un texte... Comme j'ai pas fait trop d'études... Enfin, voilà, j'ai pas fait d'études de mise en scène. Je suis actrice, donc je passe par un truc beaucoup plus instinctif. Et donc, pour moi, c'est d'abord, on dit le texte. Et puis, en fait, au bout d'un moment, le texte, il livre, en fait, ce qu'il a à dire. Et c'est ce moment-là qui est génial. Moi, Rapt, par exemple, on a travaillé énormément sur ce spectacle... Enfin, ça a été vraiment un gros travail, très minutieux de tous les corps de métier qui sont intervenus autour de ce spectacle. Et je pense que la première, c'est vraiment, ça me le fait à chaque fois. Mais là, vraiment fortement. Avant, quand même, dans les filages, quand même, le spectacle, d'un coup, il vient, on le voit, il est là. Mais là, presque. Enfin, j'adore les textes qui ont l'air simples à la lecture. Et en fait, quand on travaille dessus, on se dit oh, « c'est complètement dingue, ça raconte ça !» Et comme c'est vrai que j'ai ce truc un peu instinctif, des fois même, je vais découvrir pourquoi je monte le texte au bout de la 10e représentation. Je me dis « ah, mais ça, je sais pourquoi j'ai voulu monter ça. » Il y a un truc, et des fois, c'est rien. Des fois, c'est une scène, une phrase, une idée, un personnage, quelque chose qui, je pense, va me parler intimement. Mais c'est vrai que je fais beaucoup... Un espèce de refus de conscientiser aussi. J'aime bien me faire surprendre. Puis, je ne saurais pas. Enfin, je n'ai jamais essayé. Enfin, si, j'ai essayé sur des petites choses comme ça. Mais je trouve que quand un texte est bien écrit, ça, en fait, moi, ça me fait grandir. Ce que tu disais sur le firmament, c'est vrai que j'ai commencé. Je suis actrice, donc j'ai commencé par la direction d'acteur. Et c'est vraiment mon point de départ et c'est ce que j'aime faire. Et puis, bah, d'un coup, il y a un texte où bah, ça ne suffit pas, en fait. Il faut faire de la mise en scène, sinon ça ne marche pas. Donc bah, là, en fait, ça s'impose. C'est comme la vidéo. Enfin, voilà, il n'y en a pas dans tous les spectacles. C'est juste que le texte, à un moment, il nécessite quelque chose pour lui faire l'écrin, en fait, qu'il mérite et qui va le mettre le plus en valeur et qui va permettre de l'entendre le mieux et de le recevoir le mieux. Je dirais ça. Mais si j'ai répondu à ta question.
Si, je pense. Mais non, ce que je trouve très beau, c'est que tu... Tu manifestes vraiment une confiance dans le texte.
Ah, complètement.
Et dans la langue, et dans la structure, et dans le mécanisme qui est vraiment singulière, qui te positionne à un endroit extrêmement singulier dans le chant théâtral. Dans l'écriture de Lucie Kirkwood, qui est très ficelée, qui est comme un scénario, donc qui t'amène à devenir à la mise en scène comme tu ne l'as pas fait plus tôt. Qui pourrait paraître vraiment comme une contrainte avant, là tu développes quelque chose de très musical, de très précis dans la mise en scène, où on perçoit tout le travail des déplacements, des gestes, des reconfigurations spatiales, du son, des lumières. Et ce qu'on peut dire de rap, c'est peut-être la seule chose qu'on peut dire, c'est que tout ça se retrouve énormément avec en plus de la vidéo. Et donc tu as cette grande confiance dans le texte qui est assez unique et qui va de pair, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, avec une grande confiance et un grand plaisir aussi dans la fiction. Et là aussi, c'est singulier, parce que c'est quand même un bastion qui est attaqué de toutes parts dans la création contemporaine. Toi, tu prends la défense du texte tel quel, tu prends la défense de la fiction, alors que la fiction est plutôt présentée par le cinéma. Mais tu revendiques le théâtre. T'as déjà pensé faire du cinéma?
Pas tant. Je saurais pas faire, je sais pas faire. Là, il y a beaucoup de vidéos dans celui-là et franchement, j'arrêtais pas de dire pendant les répètes « Ah non, et plus jamais de la vidéo, c'est terrible, il faut attendre pendant des heures et tout. » Et comme je pars des acteurs, en fait, c'est ça le truc, c'est que comme je pars des acteurs et que ça démarre vraiment là, moi, mon travail, je peux pas... j'ai du mal à me projeter dans un projet tant qu'on n'est pas rentré dans la langue, en fait. Je suis pas sûre, du coup, au cinéma, enfin, je sais pas. Parce que c'est vrai que Lucie Leur-Corcoud, Le Firmament, c'était, c'est moins structuré comme écriture, en fait. C'est moins, par rapport au texte que je monte d'habitude, c'est moins... Là, je les ai vraiment empêchés, je le fais tout le temps, mais là, je les ai vraiment empêchés de faire des élisions, je leur ai fait surrespecter la ponctuation, je le fais tout le temps, mais là, j'ai vraiment poussé parce que, comme c'est une écriture très cinématographique, ça peut aussi être une écriture un peu... Et sur la traduction, c'était compliqué. C'est compliqué, Kerkout, parce que du coup, l'anglais a cette espèce de rythme comme ça, très concret, très... Voilà, et le français, qui est une langue plus, plus molle, quoi. Donc du coup, pour essayer de trouver cette énergie, on a dû... faire, en tout cas au niveau de leur diction, il y a quelque chose qui du coup n'est jamais naturaliste, ça dans aucun texte, mais là il faut je pense encore plus le faire pour que ça fasse pas cinéma, parce que, enfin, en tout cas selon moi, le cinéma, en tout cas j'arriverais pas à le faire au théâtre, enfin il y a un truc quand même du théâtre, il y a une énergie dans la langue, quoi, dans l'énergie que mettent les actrices, les acteurs à parler, puisque l'action est toujours un peu dans la parole. Un peu moins maintenant, depuis Kerkoud, puisqu'elle m'a appris, en fait, elle m'a appris que je pouvais faire autrement. Et c'est vrai que, comme je n'ai pas de formation de mise en scène, j'ai l'impression qu'à chaque spectacle, chaque auteur, chaque autrice m'apprend quelque chose sur moi-même ou m'apprend à faire un truc que je n'avais jamais fait, que je ne savais pas faire, hein, parce que j'apprends comme ça, en fait. Et elle m'a appris à aller un petit peu plus loin dans... les images, en tout cas dans quelque chose de plus... je suis toujours dans la fiction, j'adore raconter des histoires, mais là, de peut-être plus immersif pour le spectateur, où on peut un peu... on peut se prendre au jeu et être un peu comme au cinéma. Ça rentre un peu plus dedans, mais je crois que c'est vraiment elle qui m'a appris à le faire. Et du coup, j'ai dû lâcher des trucs que je fais d'habitude, parce que là, du coup, il y avait d'autres choses à faire. Mmh. Et donc, même mon rapport aux acteurs, je pense qu'il a changé. Et il change à chaque fois. La confiance aussi que j'ai... parce qu'au début, je tenais tout sur Orphelin à la virgule, quoi. J'étais tarée, quoi. Je faisais notes tous les soirs. Hyper technique, et je les reprenais tout le temps et tout. Et c'est vrai que maintenant, j'ai appris vraiment à faire confiance aussi à leur instinct et... Et c'est vrai que l'écriture de Kerkoud, elle m'a énormément appris. Elle m'a fait, en tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas faire sur ce spectacle.
Mais c'est peut-être précisément parce que tu n'as pas eu de formation de metteuse en scène que tu t'en remets autant au texte et à la langue et que ça inverse complètement, ça modifie complètement le rapport que tu établis au texte par rapport à d'autres artistes et qui fait cette grande singularité. On tourne autour depuis tout à l'heure, mais la question de la langue, elle est absolument centrale, à mon avis, dans ton travail. Et tu manifestes vraiment une attention, plus qu'un respect, une attention à la lettre du texte, qu'en tant que littéraire chevronné, qui est très sensible à la littérature, au style, me touche beaucoup. Et est-ce que parce que là, tu l'as évoqué plusieurs fois, mais est-ce que tu peux nous raconter vraiment comment tu travailles la langue en répétition ?
Alors, la méthode, parce que du coup, j'ai une méthode. Mais c'est une méthode que j'ai... En fait, j'ai été élève de Joël Jouanneau, si certains le connaissent, au conservatoire, quand j'étais comédienne, qui, lui, voilà, travaille à l'oreille et tout, et qui avait ce truc sur... Lui, son truc, c'était, ça part de là. Ne pas faire d'illusion. Donc, pas faire d'illusion, c'est dire « je te... » et pas jeteux, voilà, par exemple. Donc, ne pas banaliser la langue et respecter la ponctuation. Donc, déjà, on part de là. Moi, je l'ai prouvé sur le plateau. C'est génial, c'est hyper désinhibant, en fait, pour un acteur. Parce que la première question qu'on se pose, c'est pas comment je vais jouer ça, dans quel état je dois être, mais juste, dis ton texte déjà, puis tu verras bien ce qui se passe. Si c'est bien écrit, c'est pour ça que j'ai besoin d'une écriture forte, parce que si c'est bien écrit... Il n'y a rien à faire, en fait. Il y a juste à le dire. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai, ça vient. Et donc, je l'ai éprouvé sur le plateau. Et puis après, je l'ai testé. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des ados pendant 8 ans à Lorient. Et j'ai vraiment testé avec eux cette chose-là. Et alors, les ados, particulièrement, ce truc de un peu inhibant, quoi, de comment on va jouer Hamlet, quoi. Enfin, on ne peut pas jouer Hamlet, en fait. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. Donc, du coup, ce truc de dire le texte et de se concentrer sur la ponctuation, etc. Je travaille aussi beaucoup sur donc, le rythme. C'est-à-dire que dans les écritures anglaises, par exemple, quand il n'y a pas écrit qu'il y a un temps entre deux répliques, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps entre les répliques. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de temps, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une fraction de seconde. Et quand il y en a un, bah, alors un temps, ça dure 3 secondes. Une pause, ça dure 5 secondes. Après, ça dépend des auteurs. Et le petit soupir, comme ça dure 1 seconde. Donc, ils doivent vraiment, c'est bête et méchant, faire ce truc-là pendant tout le début des répètes. On peut croire que c'est chiant, mais pas du tout. C'est très drôle parce qu'au bout de... Bah, à force de s'être trompé 4 fois et de le refaire 28 fois, en fait. Parce qu'en plus, quand il y a un temps là, puis un temps là, puis deux pages, et qu'il n'y a pas de temps, bah, il n'y a pas de temps. Donc, il faut enchaîner. Et puis, s'il y en a un qui met un temps, je dis « Ah bah non, t'as mis un temps, on recommence. » Voilà. Et au bout d'un moment, ça crée un espèce d'effet de cocotte-minute. Ils deviennent complètement dingues. C'est très ludique, en fait. Hein. C'est pas du tout chiant. Ils s'amusent beaucoup à le faire, mais au bout d'un moment, ça les rend complètement... ça les met, en fait, dans un état de tension qui fait qu'en fait, bah, la tension de jeu, elle est là, mais elle n'est pas passée par des questions psychologiques. C'est là que... Bon, la dramaturgie, ce n'est pas forcément de la psychologie, mais c'est là que nous, on va se raconter beaucoup de choses à la table, mais quand on arrive sur le plateau, pour moi, c'est fait, en fait. C'est digéré. On s'est dit des choses, on va découvrir d'autres trucs évidemment, mais on va bien voir ce qui se passe. Alors après, souvent dans tout ce qui est Denis Kelly, les scènes de couple et tout, ça donne qu'ils s'engueulent tout le temps. Donc après, on rééquilibre en fait pour travailler un petit peu plus en subtilité les relations, tout ça. Mais en tout cas, ça crée une tension, donc ça crée un état en fait, d'une manière ludique et désinhibante, qui fait que, bah ouais, c'est, en fait, c'est comment ne pas passer par de la psychologie et se demander comment on va être triste ou en colère. Ou, voilà. Et c'est vrai que j'aime pas voir les acteurs jouer. Donc, pour moi, un personnage, c'est la rencontre entre cet acteur qui a ce corps et cette voix et cette énergie et ce vécu et ce qu'il est, et le texte. Donc, si on le fait bien... il ne va pas composer. C'est vrai que du coup, ça ne compose pas et ça ne passe pas par toute une histoire qu'on va se raconter sur le personnage. En fait, tu n'en sais rien du tout comment il est le personnage. Le personnage, c'est toi, avec ta voix, ton corps. Et c'est parce que tu dis ces mots-là et que tu dis ces mots-là à cette personne-là que du coup, on va avoir des personnages qui naissent. Donc, ça passe vraiment... En fait, c'est comment de l'anti-psychologie, mais au final... Ça dure plus. Au début, on rentre là-dedans comme ça, le rythme, reprend. Et en fait, ils se mettent à jouer, ils ne s'en rendent même pas compte. Et du coup, au bout d'un moment, ça joue, puis après, on arrête d'y penser, ça se digère. Donc, quand on a le temps de le digérer, ce qui n'est pas toujours le cas sur les répétitions, quand on a le temps de le digérer, je pense que ça ne se voit plus, ça ne s'entend plus. Je pense que le firmament à la première et le firmament plus tard... au début, on entendait beaucoup qu'il n'y avait pas d'élision et que c'était une façon de parler un peu bizarre. Et puis, en fait, je pense qu'au bout d'un moment, on ne l'entend plus parce qu'ils l'ont complètement intégré. Donc, c'est tout le processus après d'intégration de cette méthode où, en fait, ils ont complètement oublié qu'un jour, on est passé par cette méthode. Et juste, ils jouent, en fait, ils savent ce qu'ils font. C'est hyper clair et hyper concret.
Et tu passes un moment le texte sous forme de partition. Je dis partition parce que tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Tu as une formation musicale. Ça, c'est, tu le sais pas, mais c'est un point commun qu'on a aussi. Moi, c'est par le chant. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où bah, les temps que tu indiques, ils sont dans le texte, ou c'est toi qui les traduis ?
Non, ils sont écrits.
Mais pas chez Kirkwood ?
Ah bah si.
Mais comment tu les...
Bah, c'est écrit temps, c'est écrit pause, silence, long silence, où il y a même des petites virgules comme ça. Donc après, des fois, bon, parce que comme j'ai beaucoup monté Denis Kelly, et que pour moi, Denis Kelly, c'est 3 secondes, nanana, ou 3 crocodiles, voilà, on rigole, voilà. Et ben, chez Kirkwood, c'était pas tout à fait pareil, donc il a fallu trouver ce qui me semblait juste à l'oreille, de décider que peut-être chez elle, quand elle met pause et temps, c'est pas tout à fait pareil que lui. C'est pas aussi précis. Je pense que, je sais pas si elle l'entend autant, ou quand elle met long silence, bah forcément, un long silence étant plus long qu'un silence, si, c'est comme en musique. Et puis, dans les écritures anglaises, donc t'as énormément de phrases qui ne sont pas ponctuées à la fin. Donc, en général, quand elles sont pas ponctuées à la fin, ça veut dire qu'elles ne s'arrêtent pas. Donc, c'est que la personne qui parle en dessous parle. Des fois, ça parle en même temps. Des fois, il y a des slashes qui fait que tu dois commencer à parler alors que l'autre est là. ce qui fait que... Attends, je suis en train de me perdre. Ce qui fait que ça... ce truc-là, c'est très musical et très rythmique. Et ça crée, quand ils le font bien, ça crée un effet de réel, je dirais. Mm. Ça a l'air d'avoir été improvisé, d'être improvisé, et on a l'impression qu'ils se parlent normalement, alors qu'en fait, ils sont en train de respecter à la virgule près exactement ce qui est écrit. C'est-à-dire que s'il y a un point à la fin d'une phrase, une virgule ou rien, ils n'ont pas le droit de faire pareil. S'il y a un point-virgule, s'il y a un italique, s'il y a... c'est là qu'il y a une partition, je leur demande de tout traiter. Comme les Alexandrins. Tu traites un E muet et tu ne peux pas ne pas le traiter.
Bah, moi, je trouve... On a souvent envisagé ton Iphigénie comme une espèce de détour, d'exception dans ton parcours, mais bon, il y a quand même cette question de la langue qui rend les choses très cohérentes. Lagarce, Racine, je pense autant que Kelly ou Kirkwood, mais Lagarce, Racine, t'as fait comment ? Parce que Racine, t'as pas ces temps-là.
Alors, Lagarce, il y a. Lagarce, ouais. Très concrètement, il y a des retours à la ligne. Donc, il faut trouver. En fait, chaque écriture est différente. Mais Lagarce, il y a des blancs. Il y a donc un... Pourquoi il met un blanc ? Il n'y a pas... Toujours de la ponctuation, c'est très ponctué, c'est très bien. Enfin, c'est très bien écrit. Lagarce, c'est pareil, il y a rien à faire. C'est magique, c'est un truc de fou. Et Racine, bah Racine, du coup, c'était mon petit pari, c'était de faire pareil. Sauf que, du coup, j'ai dû retrouver une version de je sais plus qui avec de la ponctuation et les alexandrins. Je vais faire hurler des gens. Mais du coup, j'avais besoin de ponctuation parce que sans ponctuation, bah, je savais pas faire. Donc, et puis, j'ai dû choisir parce qu'il y a plusieurs méthodes. En tout cas, il y a plusieurs écoles sur les alexandrins. Donc, on a dû choisir avec les acteurs plutôt quelle méthode ou plutôt quelle méthode ou un mix des deux. Voilà. Donc, j'étais là entre ces deux méthodes. Bernardi, Regnault, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'avais eu Regnault au conservatoire. En plus, c'est un enfer. Et j'ai eu Mesguiche aussi au conservatoire, qui, en plus, c'est encore autre chose sur les alexandrins. Donc, en fait, en vrai, il y a plusieurs méthodes. Donc, en fait, qui sait, en fait, comment on les disait à l'époque, les alexandrins ? Il n'y avait, pas la télé. Donc, puis, on ne les a pas enregistrés, quoi. Donc, du coup, on a choisi la méthode qui nous semblait le plus juste, en reprenant une version ponctuée, où quelqu'un avait, je ne sais plus qui, avait remis la ponctuation. Donc, on a fait les deux. Et puis, le jeu, c'était pareil. Quand il n'y a pas de ponctuation à la fin du vers, et bah, tu passes au vers suivant. S'il y a une virgule à la fin du vers, et bah, c'est là que tu ne passes pas au vers suivant. Et le plus dur, c'était les E, parce que dans les textes contemporains, je les oblige à ne pas faire d'élision. Ben là, du coup, les muets, c'est quand même, c'est vraiment très délicat, je trouve. Hein, mais c'est génial. Hein, mais du coup, d'entendre l'acteur qui fait ta 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 ta, et du coup, il faut lui dire, bah oui, mais donc comment ne pas se retrouver avec ce truc régulier, tout ça, mais faire qu'ils arrivent quand même à sculpter le truc pour qu'on a l'impression qu'ils parlent. Mais qu'on respecte quand même. Et en vrai, je me suis fait beaucoup attaquer sur les alexandrins, mais en vrai, à part certains vers où les acteurs de temps en temps rataient une marche, ils respectaient vraiment. Il y avait vraiment les 12 syllabes, il y avait vraiment tout ça. Et on a vraiment, en tout cas, nous, on s'est mis une règle et on a suivi cette règle jusqu'au bout. Et c'était très rigoureux, on a été très rigoureux. Après, franchement, il y a tellement de façons. Donc après, voilà. Là, pour le coup, on a dû faire des choix. Quand tu parles du respect, on a dû faire des choix. On n'avait pas le choix, là.
Ouais. Ce travail du rythme que tu fais à l'oreille, cette espèce de direction à l'oreille, je tiens quand même à souligner le fait que ça rend ton... C'est vraiment, je pense, le cœur de ton identité artistique. On a fait un exercice il y a 2 semaines avec les étudiants. Les étudiantes ont essayé de comprendre quelle était vraiment l'essence de ton geste artistique à partir d'une captation de Girls and Boys. Et on a mis du temps à en venir à l'idée que c'était le rythme et la direction d'acteur. Parce qu'en fait, ce qui est le moins démonstratif, c'est vraiment le cœur de ta direction. Il y a des metteurs en scène qu'on identifie par leur esthétique, par leur façon de diriger très singulière. Toi, tu es toujours dans cette... idée de retrait derrière le texte, derrière les acteurs, où en fait tout est dans le rythme et dans la façon de jouer, mais de manière discrète. Et c'est quand même très très singulier. Si on poursuit cette question de la langue, ce qu'il y a d'un ce qui pourrait paraître paradoxal dans ta démarche de confiance dans le texte, confiance dans la langue, c'est que tu travailles à partir de textes non français. Tu as une attirance particulière pour les dramaturgies anglophones, disons. Et donc, est-ce qu'à un moment, tu es amenée à, par les circonstances, à faire de la traduction ?
Bah ouais. Après, en plus, ce qui est vraiment le comble absolu, c'est que je suis vraiment nulle en anglais. Je suis vraiment nulle en langue.
Alors ça, je te rassure.
Et vraiment, c'est une cata. Et j'arrive à lire. Et c'est, encore une fois, c'est parce que j'ai monté déjà des textes de Denise Kelly traduits par Philippe Lemoine. Je pense que j'ai aussi une habitude de ce... C'est vrai que ça part de là. Ça part, des traductions qu'il a faites, lui. De certaines expressions, la façon dont il les a traduites, tout ça. En tout cas, je trouve que rythmiquement, les textes traduits par Philippe Lemoine de Denise Kelly que j'ai eu l'occasion de travailler, rythmiquement, moi j'ai toujours réussi à travailler avec. Et donc, Kirkwood, en revanche, là c'était une commande de traduction. Donc j'ai beaucoup travaillé avec la traductrice, Et aussi parce que les Anglais, ils finissent... Alors, le système anglais, contrairement au système français, c'est d'abord la star, c'est l'auteur. En Angleterre, c'est l'autrice, l'auteur, c'est la star. Quand il y a des articles de presse, on ne parle que de ça. D'abord, c'est la nouvelle pièce de Denise Kelly, la nouvelle pièce de Lucy Kirkwood. Ensuite, c'est les acteurs. Et à la fin, tout en bas, comme ça, sur les deux dernières lignes, c'est le metteur en scène qui a fait un truc pas mal, qui a aidé ou qui était un peu nul. Mais en vrai, on s'en fout complètement des metteurs en scène Royal Court, tout ça. Bon, certainement, ils sont un peu connus comme ça, mais non, les auteurs, c'est des stars. Donc, quand on commande un truc comme ça, l'auteur, il est en répète avec les acteurs anglais. Il arrive avec sa pièce et il est là tous les jours et il répète avec eux, il réécrit le texte avec eux, il écoute, ça va pas, il change, ça va pas avec les acteurs. Donc, il s'adapte aussi aux interprètes qu'il a en face de lui, ou d'elle, en tout cas. Par exemple, il y a des choses d'humour ou des petites expressions, tout ça, qui, je pense, viennent aussi du fait que ce soit cet interprète-là qui crée le rôle. Donc, les créateurs du rôle marquent énormément les textes anglais. Donc, ça paraît assez cohérent que quand on monte un texte anglais en France, il soit traduit de la même façon et que le traducteur ou la traductrice soit impliqué dans le travail de création avec les acteurs pour trouver les singularités qui sont propres à cet interprète-là.
Tu dis « je ne parle pas anglais », donc non. Mais là, je te rejoins tout à fait, c'est que moi, je pratique la traduction d'un tout petit territoire, donc de textes de théâtre contemporain cubain, donc de l'espagnol au français. Je ne pense pas être vraiment une star en espagnol du tout, mais bon, j'ai été formée à l'exercice de traduction, j'en connais les règles, et je suis convaincue que c'est la langue d'accueil qu'il faut le maîtriser le plus, en fait. C'est ce que je vais me cacher derrière André Markovitch, mais c'est ce qu'il dit aussi, c'est-à-dire qu'il est capable de traduire des textes dont il ne maîtrise pas forcément la langue, mais il maîtrise le français. Mais Il y a cette question du rythme aussi que tu vas retrouver. On termine la traduction au plateau en fonction des acteurs et actrices pour voir si ça sonne bien. Mais moi, une des questions que je me pose souvent quand je traduis ces textes-là, c'est celle des références culturelles et celle de l'histoire que potentiellement prend en charge le texte et qu'il faut aussi amener au théâtre, sachant qu'il n'y a pas de note de bas de page. Donc il ne s'agit pas de dire on vous fera un renvoi plus tard sur cette référence-là que vous n'avez pas. Donc j'imagine qu'il y a ça aussi qui rentre en compte dans...
Dans Kirkwood, plus que Denise Kelly, en tout cas. Denise Kelly a un truc, c'est un peu plus... en tout cas, ça, ouais, c'est des références moins compliquées. C'est hyper ancré. C'est vraiment l'Angleterre, c'est des références hyper anglaises. Il y a des blagues dans le firmament, il y a des blagues... on peut pas comprendre. Mm. Après, je pense que c'est dans tout. Moi, j'ai mis en espace des textes dans le cadre d'un projet européen qu'on a, justement, d'écriture européenne. Et il y avait un texte flamand que j'ai vu mettre en espace ici, puis dans les autres pays. Et en fait, moi, j'ai fait la mise en espace. Donc, il y a 6 textes dans plusieurs pays qui sont traduits dans la langue du pays. Donc là, c'était en flamand, à Bruxelles, avec des acteurs flamands. Et le texte flamand que j'avais vu mis en espace ici et en Espagne et tout, en fait, eux, ils m'ont expliqué le texte, en fait. Les acteurs flamands, ils m'ont expliqué des trucs qui s'étaient passés, qui étaient un vrai truc. Mmh. Non, c'était pas juste un truc formel, c'est une vraie histoire qui avait traumatisé la Belgique. Et, enfin, le truc, ça, enfin, s'il y a personne qui te le dit, tu peux pas le savoir, quoi. Ouais. Et que la référence, c'était, voilà, et du coup, c'est hyper beau. Parce que je me disais, mais en fait, c'est vrai que quand on n'a pas la ref, on peut pas. Ouais, il y a des choses, je pense, à côté desquelles on passe, mais en même temps, c'est le jeu, puisque c'est pas la langue. Donc forcément, on va en faire autre chose. Mais je trouve qu'il y a des textes. Enfin, c'est vrai que moi, les textes anglais que je travaille, je demande au traducteur. C'est un choix. Louise sur le Firmament, elle m'avait, au départ, était partie sur francisé en fait. Mmh. Et je lui dis ah non en fait, tu peux pas franciser, c'est pas grave. Je veux dire quand on regarde des séries américaines, quand on regarde Netflix, enfin c'est sous-titré ou il y a pas, c'est pas nos références, mais on comprend quand même en fait. Mmh. Donc j'ai l'impression qu'au maximum, faut garder les références culturelles du pays d'origine. Et puis après, c'est juste dans la façon dont tu les comprends. Ou ce que tu vas en faire, que tu vas interpréter, pour le coup, avec ce que t'es, quoi. En tout cas, ce que tu vas comprendre, ce que ça va te raconter. J'ai l'impression.
Moi, je pense que s'il faut retenir quelque chose de la mise en scène chez Chloé Dabert, c'est...
Attends, je t'enregistre.
La mise en scène de textes de théâtre, ce qui est original. Un travail de la langue, extrêmement singulier. Un rapport au texte extrêmement attentif au rythme et... Tout ça donne lieu à un geste de mise en scène qui se concrétise le plus directement dans le jeu d'acteur, dans la direction. Ce qui n'est vraiment pas le plus évident et le plus spectaculaire quand on assiste à un spectacle. Et donc je pense que là, avec Rapt, vous allez assister à un spectacle assez spectaculaire. La scénographie est imposante, le dispositif vidéo, les accessoires, les éléments de décor. Mais peut-être que le cœur de ton geste, il ne se situe pas forcément dans tout ça. Mais dans vraiment la direction de l'acteur, le rythme de la langue, je pense que vous allez le voir dès la première scène, et dans cette attention-là que tu portes au texte.
Et le fait aussi, je pense que toutes les personnes qui sont autour, je dis ça parce que si, en fait, ça c'est vrai que ça c'est mon travail, mais en fait j'ai des collaborateurs autour, la scéno, la vidéo, le son, la lumière, les accessoires, les costumes... le travail sur, le petit artisanat assez magique du théâtre et plus récent. En fait, tout le monde, et c'est ça qui est génial, j'ai une équipe géniale, qui vraiment, je pense qu'on est tous, moi je vais coordonner tout ça, mais en fait, tout le monde est au service de la même chose, est au service du projet. Moi je suis là pour maintenir que tout le monde aille bien dans la même direction, ou que on va tous raconter la même histoire, mais c'est comment on construit un écrin qui nous semble le plus juste possible par rapport au texte qu'on a, qu'on trouve génial, parce que sinon on ne l'aurait pas choisi. Mm-mm. Et donc, il est tellement génial qu'on essaye juste de se dire, voilà, comment on met ce texte en valeur et comment on raconte au mieux cette histoire, puisque la notion de fiction est vraiment importante, et comment on fait que vous soyez le plus... que vous receviez le plus d'émotions, enfin de l'histoire qu'a voulu raconter l'autrice, en fait, tout simplement. Je dirais, voilà, il y a aussi cette chose qui je suis très accompagnée.
Enfin, c'est pour ça que je mets l'accent sur toi, ton endroit bien particulier, dans une scénographie immense, dans une conception immense, qui rend les choses évidentes. Enfin, tu es extrêmement accompagnée avec une équipe qui t'est très fidèle et qui te suit dans ce projet-là. Mais je dirais que ton endroit, c'est celui-là.
Ok. Merci.